Rebonsoir, je suis ici donc pour vous parler de Millennium. Alors j'ai essayé d'être à peu près complet et de vous parler un petit peu de toute la saga, enfin des trois volumes de la trilogie, de tous les produits dérivés, enfin les adaptations qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Donc déjà, pour commencer, Millennium est une série de trois livres suédois, donc écrit par Stieg Larsson, un journaliste très engagé dans son pays, enfin qui était très engagé dans son pays, puisque en fait, petite chose qui a certainement contribué en fait au succès de ses livres, c'est que l'auteur est mort en donnant le manuscrit du troisième volume. Il est, si la légende est exacte, il me semble qu'il est mort quasiment sur le chemin du retour de chez son éditeur, bon, ce qui contribue à la légende et de bien faire vendre la chose. Donc avant de continuer, faut dire que lui, il voyait ses livres en fait comme une sorte de... C'était son épargne, en gros, c'était son petit pécule pour faire sa retraite, même si c'était quelqu'un quand même de connu dans le pays et qui avait été actif à pas mal de niveaux, entre autres contre le racisme, qui avait lui aussi fondé une revue comme le héros de ses livres, enfin l'un des héros de ses livres, et donc voilà, il est mort en donnant le troisième manuscrit, excusez-moi, et en sachant qu'effectivement il comptait en faire au minimum 10. Donc ce qui me... Je trouve que ça n'était pas une très très bonne idée, puisque... alors là je vous donne mon avis sur les livres. Le premier est vraiment très très sympa, se lit super bien, l'histoire est bien foutue, et à partir du deuxième ça se gâte. Ça se gâte parce que, en fait c'est plus... On n'a plus le droit à une enquête, on est rattaché à l'histoire d'un des deux personnages. Donc Lisbeth, que vous avez certainement dû voir si vous avez croisé des affiches ou des images de promo du film. Donc cette espèce de hackeuse punk rock nihiliste. Et en fait ça marche beaucoup moins bien. Le scénario est moins habile. Il y a des personnages qui vont, qui viennent, qu'on nous présente pas ou très peu, qui sont un peu là de manière opportune. Parce que ça arrange l'histoire, donc voilà, moins bien foutu. Mais le premier, moi ce qui m'avait énormément plu en fait à l'époque, c'était le passage entre effectivement toute l'enquête qui est en fait une métaphore de toute l'histoire de la Suède, et tous les déboires journalistiques en fait du héros principal, même si, enfin il y en a deux, qui est Michael Blomqvist. Et donc je trouvais ce partage en fait dans l'histoire assez intéressant, surtout du point de vue d'un journaliste qui était aussi rédacteur en chef d'un journal qu'il avait créé, donc qui avait vraiment une vue de l'intérieur. Et c'était très très bien fait. Le deuxième personnage qui arrivait était un peu plus choc, je pense, pour justement puisque en fait elle n'avait pas de... Comment expliquer ça correctement? Elle a une histoire centrale qui se rapproche, qui est mise en parallèle en fait de l'enquête, et de manière très très bien. Mais en fait, en elle-même, elle a pas de... C'est pas qu'elle a pas de personnalité, mais elle a pas l'impact que peut avoir le journaliste, en tout cas dans le premier volume.
Elle a pas la volonté de diriger sa vie.
Ouais, elle est. On a l'impression de voir une sorte d'entité d'électron libre qui se balade dans l'histoire. Qui, c'est même très surprenant quand elle arrive à se lier d'amitié, enfin se lier un petit peu à ce journaliste, puisqu'on a l'impression qu'en fait elle ne va se lier à personne. Au début de l'histoire, on se demande même pourquoi la faire intervenir. Après, voilà, c'est devenu une sorte de symbole de cette saga, mais c'est vrai que le personnage est choquant. Ouais, mais il est choquant pour le spectateur, enfin pour le lecteur. Avec un personnage aussi atypique, il était forcé d'attirer l'attention, puisque Blomqvist est presque, on va dire, en tout cas dans le premier, j'ai l'impression, il y avait mis beaucoup de lui, il avait besoin de se détacher et en même temps de mettre un personnage qui pouvait accrocher le lecteur. Donc c'est sorti il y a maintenant 4 ans, 5 ans chez Actes Sud, qui a fait un véritable hold-up à l'époque, on les voyait partout. Ils lançaient pas la collection, mais il me semble qu'ils avaient refait la maquette qui a été, qui a marché du feu de Dieu, quoi, pour utiliser une expression.
La maquette, elle est, oui, effectivement, c'est maintenant un classique du style. Et c'est vrai que rien qu'à la maquette, ils peuvent vendre n'importe quoi bientôt.
Voilà. Et non, très bien fait avec le petit médaillon, avec la petite illustration de Mercredi Adams, là.
Oui, c'est surtout que quand on voit en fait les adaptations au départ, on se dit que c'est... Oui, effectivement.
L'illustration s'appelle Mercredi la Destructrice, donc...
Ça semble bien le Mercredi Adams,
c'est
donc...
C'est bizarre comme coïncidence.
Donc c'est effectivement... Donc, en plus, Acte Sud, c'est reboosté sur le polar scandinave. Avec ça, véritable hold-up. Alors, en plus, les volumes sont vendus 23 €, à peu près 22,80 € en grand format. Maintenant, ils sont sortis en poche, puisque avec cette collection, enfin, avec cette saga, ils ont réussi à passer sur le format poche après, qui ne coûte que 10 €. Donc, je vous conseillerais quand même le poche, parce que voilà. Je ne vois pas franchement la différence entre un grand format et un poche.
Pour ma part, c'est plus facile à transporter.
En plus. Donc voilà, sorti en 2006, alors en France, mais un an auparavant en Suède. Donc la saga a été traduite, je crois, très très vite, en moins de 2 ans ou 3, été traduite en 26 langues, donc ce qui est voilà, une raz-de-marée éditoriale. Ce qui a donc donné dans le pays d'origine une première adaptation en mini-série de 6 épisodes, 2 épisodes par volume. Cette mini-série ayant tellement bien marché qu'ils ont décidé de l'exporter au cinéma, mais au cinéma ils ne l'ont pas exporté sous forme de mini-série, ils l'ont exporté sous forme de film, de 3 films, qui est donc cette mini-série qui a été remontée pour être plus courte. Donc je vais vous en parler un peu. Alors, à mon grand désarroi, je n'ai pas vu la mini-série, je n'ai vu que le premier film de cette première adaptation cinématographique.
Parce qu'il n'y a qu'un film qui a été fait pour l'instant.
Non, les 3 sont sortis au cinéma.
Les 3 sont sortis ?
Le premier était sorti à grand renfort de pub,
oui.
Et les 2 autres sont passés beaucoup plus sous le radar. Enfin,
oui,
peut-être pas sous le radar, mais la sortie était moins cataclysmique, on peut dire. Et en plus, entre deux, la mini-série avait été diffusée sur Canal, il me semble.
D'accord, parce que moi, effectivement, j'avais vu le premier au cinéma. Je ne me rappelle pas avoir vu passer les 2 suivants.
Maintenant je me demande s'ils sont bien sortis au cinéma, tu mets un doute, mais faudrait vérifier s'il y a eu des... Mais je me souviens que très peu de temps après, en tout cas 1 ou 2 mois après il me semble, sur Canal était passée la mini-série, donc complète, donc 3 fois 3 heures, 9 heures au total de programme, ce qui est quand même assez important. Donc je vais vous en parler. Dans les rôles principaux, je ne vais pas arriver à ressortir le nom du bonhomme, je l'avais tout à l'heure, ça y est je l'ai paumé, qui commence à faire une carrière internationale puisqu'on l'a vu en grand méchant dans Mission Impossible 4 dernièrement, et celle qui joue le rôle de Lisbeth Salander, donc cette hackeuse punk rock, est jouée par Noomi Rapace, qui fait aussi également aujourd'hui une carrière internationale avec à partir de demain Sherlock Holmes, le deuxième avec Robert Downey Jr. et plus tard dans l'année Prometheus de Ridley Scott. Ils sont bien sortis de leur niche suédoise. Alors pour parler de l'adaptation elle-même, moi je l'ai vue, elle m'a franchement beaucoup déçu puisque toute la storyline sur le journal est complètement laissée de côté dans le remontage film. Alors peut-être que ce n'est pas le cas dans la mini-série. Et ensuite, il y a des scènes d'une violence qui m'ont vraiment perturbé quand j'ai vu le film, qui m'ont vraiment gêné. Vraiment beaucoup, inutilement en fait, ils n'avaient pas besoin d'être aussi crus, aussi violents, aussi viandards, j'ai envie de dire, aussi trash, pour servir le propos. En plus, l'acteur qui joue le journaliste n'a pas franchement beaucoup de charisme, ce qui n'aide pas, puisque c'est quand même être censé dans le roman un homme à femme, quelqu'un qui quand même a un physique, un charisme, quelque chose qui est censé... Et là qu'on ne retrouve pas. De même, j'ai peu senti en fait le parallèle entre l'histoire suédoise et l'histoire l'enquête dans ce premier film. Je trouve qu'ils sont un petit peu passés à côté de leur sujet. Alors après, bon, j'ai pas vu les 2 autres parce que les livres numéro 2 et 3 m'ayant beaucoup moins plu, m'ayant semblé beaucoup plus facile, n'ayant pas aimé la première adaptation, je me suis dit qu'il y avait peu de chances que j'aime les 2 d'après. Donc j'ai préféré pas poursuivre le calvaire. Pour ce qui est de la non-vision de la mini-série, je dois dire que le premier m'ayant déçu aussi, je me suis dit, est-ce que je vais prolonger le massacre ou pas? Disons que j'avais d'autres choses à regarder qui étaient certainement meilleures à ce moment-là et encore maintenant.
Alors après, moi j'ai aussi vu donc cette première adaptation qui, moi, m'avait un peu marqué dans l'adaptation, n'ayant pas lu le roman. c'est quand même qu'il y avait des pistes, notamment sur toute l'enquête, puisque globalement, donc, on va dire, le pitch, on n'a pas vraiment parlé.
C'est
une enquête journalistique. Donc, un vieil homme embauche Blonsky pour faire un roman sur officiellement sa vie, mais surtout pour enquêter sur comment sa petite nièce est décédée dans les années 60. Enquête qui sert de fil rouge. Et on voit donc toute cette famille où ils sont tous à moitié cinglés. Où ils ont des casseroles à trimballer parce que entre ceux qui sont barges, qui sont alcooliques, qui sont violents et quand même plusieurs nazis de haut vol dans leurs ancêtres, c'est pas une famille très reluisante. Et du coup, voilà, il y a cette enquête qui se fait. Et évidemment, donc, on cherche qui est le meurtrier de cette d'Henriette, donc cette adolescente. Quand on regarde les aimants, on cherche un meurtrier. On a des nazis dans la famille. On commence par aller chercher sur ces pistes.
Pourquoi je vois pas le rapport ?
Ah ouais. Et finalement, il y a des choses qui ne sont pas poussées jusqu'au bout. Il commence à enquêter sur des pistes. Et dans ce film, eh bien, on voit ces pistes qui se terminent dans notre boudin. On ne sait pas pourquoi il les exclut au final.
Ben, c'est ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils exploitent des éléments qui n'avaient peut-être pas été exploités dans une adaptation, dans quelque chose qui doit être plus concis. Et en fait, ils passaient à côté de quelque chose qui avait une histoire finie, qui était toutes les péripéties journalistiques. Et aussi, quand même, pas mal d'éléments de caractérisation de personnages, comme les relations que pouvait nouer, par exemple, Blomqvist et sa rédactrice adjointe. Enfin, ou sa vie de famille. Des choses qui dès le départ caractérisent le personnage et qui sont complètement laissées de côté et qui jouent d'ailleurs complètement sur le côté, je trouve, un peu racoleur, qui est de tout baser sur Lisbeth. En fait, et ils avaient tout basé là-dessus, je pense aussi en pensant au public américain.
Et puis, à un moment, ils font une série, puisque c'est basé sur une série télé, que Lisbeth est seule dans les deux derniers tiers, c'est logique aussi de la mettre en avant.
Oui.
Puisque de toute façon, elle va être le héros de la série sur la durée.
Sur la durée, oui. Et encore, puisque dans le deuxième tome, elle est quasiment pas là. Puisqu'en fait, elle a disparu et c'est Blomqvist qui cherche à la retrouver. Pendant tout le deuxième tome, quasiment les trois quarts. C'est pour ça que beaucoup disent que pour les prochains films de l'adaptation américaine qui vient de sortir, va certainement y avoir énormément de réécriture pour que les deux acteurs aient le même temps de visibilité dans chaque film.
On repasse peut-être du coup sur le second film. Il ne va pas avoir les mêmes erreurs.
Non.
Et qui va être vu finalement dans l'écriture. Ils vont chercher quelque chose d'assez complémentaire par rapport à la première adaptation.
Voilà, d'assez complémentaire. Mine de rien, ils ne sont pas très concis. C'est très... Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'ellipses scénaristiques qu'on nous laisse comprendre en fait, mais ce qui est pas gênant, ce qui est même plutôt pas mal, je trouve. Les personnages sont très très bien caractérisés dès le début. Ce qui était assez dur, je trouve, et ce qui est plutôt bien réussi, c'est que toute la première moitié du film, en fait, on est obligé d'avoir un montage parallèle, puisque en fait les deux personnages ne se rencontrent pas et donc vivent deux trucs complètement différents et se raccrochent au bout d'un moment. Il faut savoir jongler avec ça, ce que Fincher, donc le réalisateur, a su faire plutôt avec brio. Enfin, moi je reconnais que je suis assez fan du film, donc j'ai peut-être pas très très objectif, mais il a déjà montré qu'il savait, depuis Zodiac maintenant, qu'il savait gérer des longs métrages plutôt imposants qui faisaient généralement plus de 2h30, ce que tout le monde n'arrive pas à faire. Et là, encore une fois, il s'en sort très très bien. Ses caractérisations de personnages, je trouve très réussies, qui jouent sur des petits riens en fait, mais qui sont pas mal, comme l'histoire du chat en fait que Blomqvist trouve et qui laisse entrer dans l'appart. Enfin, il y a des petites choses comme ça, la façon de mettre ses lunettes, machin. Je trouvais que c'était des petits détails, mais le coup de la clope au début, puisqu'en fait c'est un ancien fumeur, et quand on le voit au tout début, en fait il ressort d'un procès dont il est ressorti
perdant,
voilà, et tellement énervé, en fait il achète un paquet de clopes, il fume sa clope et il jette le reste du paquet, et ça, voilà, on joue sur des petits riens qui fonctionnent tout de suite.
Donc il y a une définition des personnages qui est quand même bien meilleure, donc sur les deux personnages principaux,
oui,
sur leur motivation et sur la manière dont ils se connectent l'un à l'autre.
Ah oui. C'est ce qui m'avait dégoûté du premier, c'est qu'en fait les deux se rejoignaient sans qu'on ait de lien palpable en fait.
Voilà.
Et là, c'est expliqué.
Là où il y a finalement moins de travail que sur le premier, c'est peut-être sur les autres membres de cette famille de barges, où effectivement on va s'intéresser aux principaux, mais les personnages secondaires vont être nettement moins mis en avant.
Bah, effleuré tout au plus, c'est-à-dire qu'on en voit, à part les personnages vraiment principaux, on en voit deux autres, il me semble, et qu'on voit, alors pour l'un l'espace d'une scène et pour l'autre l'espace de deux scènes, qui sont vraiment à chaque fois très courtes, mais assez révélatrices, à part cette scène de famille à l'hôpital, donc ouais. Sans spoiler, qui est aussi très bien foutu. On donne très peu d'éléments, mais en fait, ce peu d'éléments suffit à voir qui est qui et comment fonctionne un petit peu cette famille de Barge.
Et à voir pourquoi il ne demande pas d'aide à la famille.
Voilà, et pourquoi chacun se taire un petit peu dans son coin sans se parler, que lui a pas forcément super envie de... que Blomqvist n'ait pas super envie de tous les voir au fur et à mesure. Ensuite, alors, que dire sur le film ? Qu'effectivement, l'enquête est très... comment dire ?
Est plus simplifiée.
Oui, elle est assez simplifiée, elle est ramassée, voilà, c'est le terme que je cherchais, ramassée, mais fonctionne très bien, ce qui est assez dur, puisque dans le livre, ça passe beaucoup par... découverte de photos où un personnage seul devant son ordinateur fait « Ah, machin !» et fait toutes les connexions de l'histoire, ce qui peut être assez dur, assez lourd à être rendu en dialogue. Et ce qui là est plutôt bien fait, je trouve.
Et c'est assez bien fait, s'il y a notamment un moment où ils sont tous les deux en train de mener l'enquête en parallèle dans deux endroits différents, ils arrivent aux mêmes conclusions, et le fait d'alterner les plans entre les deux fait qu'on se dit forcément il y a un moment où il y a quelqu'un qui va se prendre un coup derrière la tête, parce que on le voit, on sait que cet enchaînement de plans qui est très saccadé et qui montre l'évolution des deux enquêtes en parallèle et qui vont aboutir à la vérité, on sait que ça va amener quelque part.
Ouais. Donc pour finir vite fait sur le film, ce que je peux rajouter, c'est que la photo c'est du Fincher, c'est-à-dire que la photo, je la trouve magnifique, on pourrait presque encadrer chaque plan. La musique est très très bien foutue de Trent Reznor, donc ancien leader de Nine Inch Nails, qui est omniprésente dans le film et qui dégage une ambiance géniale. Et le bonus, le petit nœud par-dessus, c'est le générique qui vaut presque à lui seul la place de ciné, qui est
surréaliste,
choquant, enfin qui donne, moi, enfin quand je l'ai vu, j'ai fait oh.
Alors, il est choquant, mais sensuel. Très ouais. Sensuel. C'est en gros ce qu'on n'a jamais réussi à faire sur un générique de James Bond, on va le dire comme ça.
Oh, il y a quand même des génériques de James Bond.
Il va plus loin que ce qu'on a pu voir.
Oui. Voilà. Après, bon, étant donné que c'est Fincher qui a embauché un de ses potes, je me doute qu'il devait être quand même plutôt sur la même longueur d'onde.
Ah, puis il s'est fait un CV, le mec. Hein, parce...
Ah oui, une boîte californienne donc qui bosse, de LA il me semble, avec laquelle avec qui Fincher avait bossé pour certains clips, et donc il était voir l'animateur principal en lui donnant voilà la musique, voilà le sujet, fais ce que tu veux. Et effectivement, le rendu final est bluffant. Bluffant parce qu'on s'y attend pas, c'est une surprise, je vais pas vous en dire plus.
C'est effectivement très réussi. À noter quand même que c'est pas à mettre entre tous les spectateurs. Il y a les scènes
évidemment
très trash.
Très trash, mais qu'ils sont moins que dans la première version, je trouve, puisqu'elles se jouent plus sur le sentiment de malsain.
Voilà. En même temps, elles sont peut-être plus dérangeantes dans le deuxième film. Dans le deuxième, elles étaient dérangeantes parce qu'elles étaient vraiment très trash, très crues.
Dans le premier, oui.
Dans le premier. Dans le deuxième, elles sont beaucoup plus suggérées et finalement plus efficaces, du coup.
Pas si suggérées que ça, mais oui. Enfin, ça joue plus sur le visage, en fait.
La caméra n'est pas directement mise sur l'impossible à regarder, quoi.
Ouais, voilà. Ce qui m'avait sur le premier film, j'avais carrément détourné les yeux. Donc un film que je vous recommande chaudement pour ma part. Enfin, je trouve que les deux acteurs sont, pour moi en tout cas, alors c'est peut-être dû aussi à l'écriture et à la direction d'acteurs, mais meilleurs que les premiers. La Lisbeth Salander, je la trouve mieux ressentie, en même temps plus physique, mais plus détachée du monde et des autres, et beaucoup plus arrogante. Ce qui me semblait correspondre plus à ce qu'il y avait dans le livre.
Et puis on va quand même pas conclure sans parler des futures adaptations.
Voilà.
Puisque trois adaptations sont en cours actuellement de réalisation, non plus au cinéma, mais en bande dessinée.
Et oui, trois adaptations en même temps. Alors je sais pas à quoi doivent ressembler les contrats de droit, mais ça doit être quelque chose d'affolant. Donc on a en premier lieu aux États-Unis une adaptation de la trilogie qui est faite par Denise Mina et Leonardo Manco chez Vertigo. Denise Mina, qu'on a vu à l'œuvre sur Hellblazer, mais qui a écrit énormément de romans. Leonardo Manco, qu'on a vu également sur Hellblazer et sur tellement d'autres titres que j'en perds même un peu mon latin.
Et puis bon, ceux qui sont les plus connus en France en dehors d'Hellblazer, ça va être des choses comme War Machine, qui sont pas forcément les titres sur lesquels il va être le plus à l'aise. Voilà.
Voilà. Et à mon avis, là, il peut très très bien marcher dessus. Découverture de Liber Mejo.
Magnifique.
Magnifique. Donc il y aura deux volumes par an et donc c'est deux chacun des deux volumes non pas chacun des deux volumes, comment expliquer ça, il y aura six volumes en tout et deux volumes par livre, voilà. Et donc deux volumes sortiront par an chez l'éditeur. Ensuite, on aura chez Dupuis donc une adaptation par Sylvain Runberg et Rosé Holmes, donc que je ne connais pas trop. Alors Rosé Holmes, j'ai vu simplement que c'était un dessinateur espagnol. Et Sylvain Runberg est un scénariste qui a déjà signé une BD a priori. Donc là, ce sera différent. Ça commencera à sortir à la fin de l'année, il me semble. Il y aura en tout 9 albums, donc 3 par livre. Et donc voilà, ça devrait commencer en 2012. Quant au manga, eh bien, je n'ai pas de nom ni de nombre de volumes à vous donner, puisque on sait simplement qu'un contrat a été signé avec un éditeur de manga.
Voilà, on n'a pas encore d'informations précises sur ce qui va en ressortir. On est quand même sur un des romans qui va du coup avoir été le plus adapté sur
si peu de temps, quoi.
En si peu de temps. Et qui est quelque chose qui de toute façon va marquer. Il est marquant, hein, de toute façon, même quand on voit le premier film, c'est marquant, même si ça n'a pas la puissance de celui qui vient de sortir. C'est pas forcément facile à adapter parce que finalement ce sont des formats très longs et que c'est pas adaptable aussi facilement qu'on pourrait le croire, surtout qu'il y en a trois. Donc c'est plus facile de découper en deux films un roman si c'est pas une trilogie. Là en plus,
bah,
c'est une trilogie.
Déjà que les romans 2 et 3 sont en fait sont une seule et même histoire. Donc on peut déjà pas couper celle-là puisque ça deviendrait tentaculaire. Mais voilà. Donc moi je conseille surtout voilà les premiers volumes. Je pense que je lirai l'adaptation de Manco qui m'intéresse et je regarderai celle de Dupuis. En tout cas du premier volume. Les deux d'après sont moins forts puisque moins reliés à l'histoire suédoise et plus décousus, on va dire, et s'attachent à Lisbeth Salander qui en fait de plein de points de vue est devenue en fait l'héroïne qui à mon avis n'aurait pas dû être, puisque en fait la trilogie s'appelle aussi en fait en anglais La fille avec le tatouage de dragon, ce qui donne une lecture aussi différente et ce qui explique pas mal de choses dans la promo par exemple du film américain. On voit énormément ce tatouage de dragon
qui est aussi très présent dans le film.